Bonsoir et bienvenue sur Choc FM, la radio des francophones de Toronto. Merci d'être avec nous le lundi à 22h et le dimanche en rediffusion à 22h également. Alors, ce soir, on reçoit à nouveau Alain Londès, puisqu'on avait entamé une discussion très intéressante sur l'économie comportementale et qu'on n'avait pas fini de discuter. On s'est dit, on va faire un chapitre 2. Donc, c'est une série. Restez avec nous. Peut-être qu'il y aura un chapitre 3. Mais on va poursuivre notre discussion sur l'économie comportementale. C'est un champ de la science économique qui étudie le comportement des êtres humains dans les situations économique, dont l'un des principaux objectifs, c'est de décrire et d'expliquer pourquoi, dans certains cas, les êtres humains adoptent un comportement qui peut sembler paradoxal ou irrationnel.
Ou non rationnel.
C'est-à-dire contraire à ce qu'on pourrait prédire en fonction des théories économiques. Et donc, on avait fait le point un petit peu sur... On a fait le tour avec Alain Londès la dernière fois sur ce que c'est que cette science, en quoi elle se rapproche de la finance comportementale, les questions d'éthique qui sont soulevées également. Et donc peut-être ce soir, je crois Alain, vous aviez des exemples à nous proposer. Donc je vous laisse reprendre le fil de la discussion là où on l'avait laissé.
Oui, tout à fait. Et c'est ça, c'est pour donner à nos chers auditeurs une certaine appréciation, comment quelque chose qui paraît si académique avec un économie comportementale, comment est-ce que ça peut les aider. Du côté pratique, je suis persuadé que si les gens en prennent conscience, cette discipline pourrait aider les gens à faire de meilleurs choix pour mener une vie peut-être plus saine, plus prospère et plus heureuse. Par exemple, on observe que notre intuition est parfois en train de nous mentir de manière constante. Et ça, on peut voir, par exemple, les illusions optiques. Ça, c'est le cas standard. Mettons que je vous montre les résultats d'une, ce qui est une illusion optique. Bon, c'est très difficile par radio de le faire. Mais même que vous voyez la réalité, votre cerveau, il se rabat toujours sur cette illusion qui est très difficile à changer. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on fait toujours, regarder, voir les choses. Mais ce qui est moins facile de changer, vraiment, c'est les observations quotidiennes qu'on prend tous les jours dans différents domaines. Et donc, un des concepts dans l'économie comportementale, c'est relatif à un terme très académique peut-être, qui s'appelle l'architecture de choix. Dans la vie de tous les jours, parfois, on a certains choix qui nous sont proposés et la façon que le choix est proposé va nous aider, va nous forcer parfois à prendre une décision qui n'est pas nécessairement rationnelle, disons-le. Un exemple très très simple, mettons que je suis un agent de voyage, je vous offre un week-end à Rome, incluant transport, hôtel, repas, etc. Et il y a un autre choix, encore un week-end à Rome. Bien sûr, on pourrait dire Paris, hein. Peut-être que je devrais changer mes capitales Paris. Pour notre contexte. Donc un autre week-end à Rome.
Ou Bruxelles.
Bruxelles, Paris, etc. Transport, hôtel, repas, sauf, et ça c'est le hic, dans le deuxième contexte, il a dit, mais sans le café. Bon, bien sûr, je donne un exemple très très simple. Les expériences dans ce milieu, ils vont conclure que si vous êtes présenté avec un choix pareil, les gens auront tendance à prendre le premier choix. Donc là où ils ont vraiment
toute la gamme
globale. Mais quand leur enlève quelque chose, alors on dit, ah là, ils voient ça d'une façon différente. Bien sûr qu'ils pourraient payer, etc. Mais
même si la valeur du service n'est pas essentielle finalement.
Mm-hmm. On a vraiment une conception très, très intéressante, je dois dire, relatif à l'argent. On est parfois vraiment des comptables. Si, par exemple, vous allez... mettons que nous allons ensemble à l'opéra ce soir, mm-hmm. et j'ai acheté deux tickets à 50 $ pièce, et voilà, allez, on va à l'opéra. Bien sûr, je suis bien d'accord que l'opéra coûte bien plus cher que 50 $, je ne sais pas, on en reparlera.
Dans un monde idéal.
Bien, très, très idéal, parce que c'est comme ça qu'on peut prendre des décisions. Donc voilà, deux tickets à 50 $ pièce. Ouais. On arrive à l'opéra, hop, j'ai perdu ces billets. Que faire? Alors, est-ce que j'achète de nouveaux billets? Ou bien on dit, bon, ben voilà, c'est terminé. Deuxième univers parallèle, j'ai 100 dollars en poche. Et là, j'achète, là, je vais pour acheter les billets sur place. Et pouf, je me rends compte que ces 100 dollars, ils sont partis. Que faire? Les études vont dire que si vous avez acheté deux billets 50, cet argent est déjà parti. Vous aurez plutôt plus tendance à vouloir acheter deux autres billets, puisque le contexte est là que vous êtes sur place, vous voulez vraiment aller voir ce spectacle. On y est. Mais si vous perdez de l'argent, là, les gens, ils ressentent une perte d'argent beaucoup plus prononcée que la même valeur qu'ils gagnent.
Sur le billet, par exemple,
voilà.
Ça n'a pas la même valeur.
Donc, et c'est ça qui est intéressant, que quand on perd de l'argent, là, ça engendrerait un autre genre de comportement, une autre réponse. Et c'est ça en fait.
Mais c'est d'autant plus intéressant que le billet de dollar lui-même n'est qu'un symbole finalement,
oui.
Puisque la monnaie, ça existe,
voilà,
depuis très longtemps, mais ça a pris toutes sortes de formes.
Voilà.
Ça peut être aussi un échange, un troc de services. Voilà. Vous avez dû entendre parler de ces communautés aux États-Unis qui veulent vivre sans argent, sans monnaie, et qui donc se remettent au troc parce qu'il y a énormément de services, et qui sont contre la mondialisation, et qui décident d'échanger des services dans une communauté locale, un peu comme une petite tribu. On peut s'entraider, s'échanger des services qui ont à peu près la même valeur, sans passer par l'argent.
Oui, l'argent, ça définit vraiment nos activités quotidiennes de toute façon. Un autre petit exemple, si je me permets. Mettons que vous allez à un centre de ski.
Mm-hmm.
Alors, dans un contexte, on vous demande, bon, je suis pas, je fais pas de ski, donc je sais pas si ces valeurs sont exactes, mais pour donner un exemple, disons que cela coûte pour 4 jours 160 dollars, pour dire quelque chose.
Mm-hmm.
Alors, 4 jours, vous payez au début 160 dollars, vous avez votre petite étiquette que vous portez sur vous, 160 dollars, vous avez votre passe de 4 jours. Deuxième univers, vous payez toujours 160 dollars, sauf que vous devez retirer un ticket pour le jour même que vous portez sur vous-même.
Mm-hmm.
D'accord? Donc déjà,
il y
a quelque chose de différent de représentation. Dans le premier contexte où vous avez payé 160 dollars au début, mettons que le quatrième jour, il fait vraiment un temps atroce. Il pleut, enfin, c'est impossible de faire du ski. Vous pouvez, dans ce contexte-là, il y aura une meilleure possibilité de juger. Bon, voilà, j'ai dépensé 160 dollars, mais j'ai eu 3 jours extraordinaires. Bon, quatrième jour, ça n'a pas été ça, mais au moins j'ai eu 3 bons jours. Mais si vous devez enlever une étiquette 40 dollars, l'équivalent de 40 dollars, tous les jours, là, vous allez être un peu plus mal à l'aise que dans le premier contexte, parce que là, vous voyez vraiment que là, il y a une certaine valeur.
Mm-hmm.
Voilà.
Mm-hmm.
C'est comme à la gym. Il y a une différence. Si vous payez, par exemple, une cotisation pour toute l'année au début de l'année,
oui,
janvier, vous serez là tous les jours, février peut-être, mais au fil du temps que vous êtes déplacé, enfin en temps, du moment que vous avez payé
une grosse
somme,
oui,
là, vous aurez moins tendance ou moins de lien avec le paiement que vous avez fait. Si vous devez payer chaque mois, là vous êtes plus sensible à cette dépense, et là ça sera
ça vous motive à y aller.
Absolument.
Je crois qu'il faut que les auditeurs prennent note quand même, s'ils veulent atteindre leurs objectifs de santé, prenez un abonnement mensuel
et que encore plus, ça sera encore mieux.
Ça vous incitera à y aller.
Ça, c'est une valeur, parce que moi, il y avait un certain temps, je n'allais plus à la gym, et puis la jeune fille à la gym me disait, bon ben écoute, si tu ne viens pas à la gym, tu y perds, parce que tu avais déjà payé, et elle avait raison, mais ça n'a pas changé les choses dans mon cas. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais.
Ça pourrait être un slogan présidentiel,
oui.
Ça.
Ah oui, parlant de présidentiel, je ne sais pas si on veut parler de ça.
Non, alors donc vous aviez d'autres exemples, je crois. Hein,
oui, donc il y a un autre...
ce que cette science peut couvrir au quotidien.
Oui, il y a un autre concept question de comment aider les gens. Il y a un certain concept qu'on dit en anglais, le nudge, N-U-D-G-E, ou ce qu'on peut traduire par paternalisme bienveillant. Donc, c'est vraiment un effort pour offrir les différentes options aux gens, mais pour les encourager à prendre le bon chemin.
La bonne décision.
Voilà. Donc, par exemple, supposons que vous souhaitez encourager les gens à cesser de jeter leurs déchets un peu partout.
Oui.
Vous avez différentes possibilités. Vous pouvez imposer une amende. On aime bien les amendes. Vous pouvez payer les gens qui utilisent la poubelle. Vous pouvez disposer des empreintes vertes sur le sol dans la direction de la poubelle, ce qu'on appelle en jargon un coup de pouce. Il y a une étude à Copenhague en 2011 qui indiquait que le simple fait d'utiliser des empreintes vertes sur le sol a permis de réduire de 46% les déchets dans les rues. C'est quand même formidable.
C'est incroyable.
Il y avait même un exemple pour encourager les gens d'employer les escaliers plutôt que les escalateurs qu'on va au métro. Ils avaient, je ne sais plus exactement dans quel pays, mais vous allez certainement pouvoir voir ça sur YouTube, où les escaliers étaient vraiment comme des pianos. Donc chaque fois que vous allez sur une marche, ça faisait un son quelconque d'un piano. Donc les gens trouvaient ça vraiment super. Et de fil en aiguille, ils grimpaient les escaliers et voilà, résultat, ils ont posé. Donc ça, c'était vraiment
l'encouragement positif, en fait.
Oui. Bien sûr, c'était pas comme Corée, je dois monter ces escaliers, mais là, c'était la rigolade. Deux autres petits exemples. Si vous voulez encourager, par exemple, vos employés à épargner en vue de leur retraite, j'en ai parlé avant, encore une fois, différentes options. Les récompenser financièrement en contribuant à un programme de pension complémentaire. Effectuer des déductions salariales obligatoires. Troisièmement, simplifier le processus de décision et de paiement. Donc ça, c'est l'option coup de pouce. Il y avait une étude effectuée en 2009.
Oui.
Un nouvel outil de planification a permis de doubler la participation des employés à un régime de retraite en 60 jours. Oui, la façon que tout est préparé pour eux, ça aide. Et troisième petit exemple, si vous incitez les jeunes à acheter des aliments sains à la cafétéria, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez interdire la malbouffe dans les cafétérias. Vous pouvez augmenter les prix des collations malsaines, ce qui serait terrible en fait. Mais enfin, on comprend pas. Et troisièmement, on peut en parler du marketing, parce que ça, c'est un autre sujet qui me passionne, surtout dans ce contexte.
Oui.
Où vous placez, ça va influencer si vous allez les gens acheter ou pas. Si vous placez la malbouffe sur les tablettes élevées et les aliments sains à la hauteur des yeux, là, on pourrait augmenter
la consommation
des aliments sains. Il y a eu une étude, il y a toujours des études, en 2013 par des chercheurs de l'université de Cornell. Les élèves du secondaire sont plus susceptibles à 13% de choisir des fruits et à 23% de choisir des légumes si les aliments sont présentés de cette façon. Et je dirais même plus, bon, là, j'ai pas les données pour le prouver, mais c'est aussi la façon que vous allez présenter les choses. C'est sûr que si vous coupez des carottes et que vous les tiens, voilà, c'est bon, même si c'est à votre hauteur, je pense pas que ça va inciter les gens à, ah oui, il me faut mes carottes. mes carottes bouillies, c'est ce qu'il me faut. Donc, c'est la façon de présenter les choses. Et ça, c'est tout le jeu, je dois dire, du marketing quand vous allez dans vos supermarchés. C'est vraiment toute une science, comment tout est disposé. Ce n'est pas par hasard, quand vous rentrez dans un supermarché quelconque, que vous avez des fleurs, que vous avez quelque chose tout d'un coup qui vous met à l'aise. C'est fait exprès. La musique que vous entendiez, c'est fait d'une façon relaxe, parce que le plus longtemps que vous passez au supermarché, le plus vous allez acheter davantage de ce qui était sur votre liste. Donc, c'est vraiment comme un jeu théâtral pour vraiment vous diriger vers... Il y a le lait qui est tout au fond, il y a le pain qui est tout au fond, et il faut faire un certain trajet pour y arriver. Et c'est comme ça qu'ils vous incitent. Parfois, tiens, venez goûter ceci, mais je connais le jeu. Ah oui, c'est très, très bon. Et de ce fait que vous avez un contact humain, il y aurait...
Ça vous incite à acheter.
Voilà, ça marche. Donc, j'étais avec ma mère l'autre jour à un supermarché, on était bien polis. Voilà, oui, bien sûr, c'est une très bonne sauce tomate, fait maison, absolument, merci beaucoup, on est polis, toujours polis. Mais je l'ai remis dans un autre rayon parce que j'en avais aucune envie. Je sais que c'était très bon, mais c'était pas la priorité pour ce séjour-là.
Mais c'est intéressant parce qu'en vous écoutant, je me pose la question, est-ce qu'on pourrait pas utiliser cette science pour trouver un moyen de motiver ses employés, par exemple, dans certaines situations comment faire, par exemple, pour motiver ses employés à prendre plus de leadership ou à prendre plus d'initiatives ou à travailler plus, travailler mieux? Est-ce que l'économie comportementale peut aider, justement, à la gestion d'une entreprise au quotidien? Est-ce qu'il y a des gens qui se servent de ça pour gérer mieux leur entreprise ou leur business?
Quand vous dites gérer mieux, du côté éthique, vous disiez
Plutôt le comportement humain, plutôt le comportement des salariés là, ou des employés. Est-ce que ça peut être utile?
Oui, ça pourrait être, surtout si...
Selon tout ce qui est encouragement.
Ben oui. Surtout pour des buts qu'on peut tous être d'accord, ce sont des buts qui sont corrects. C'est surtout, par exemple, préparer... La retraite, par exemple, pour... vous savez, quand j'étais un peu plus jeune, 6 ans, ma mère m'avait acheté un livret pour enfants, pour ouvrir un compte d'épargne. Un compte d'épargne, tout est expliqué d'une façon très, très simple pour les enfants. Et c'est là que j'ai appris le concept des intérêts. Ah, ça c'est intéressant. Donc si je mets mon argent dans ce compte, et voilà, j'ai la preuve, c'est mon argent, j'aurais un certain pourcentage. Bon, je savais pas le pourcentage, mais pour moi c'était intéressant que ce montant augmenterait au fil des ans. Donc j'avais toujours cette habitude de placer de l'argent, mais je n'enlevais jamais de l'argent de mon compte. C'était très malin. Si j'avais besoin d'argent, maman était toujours ma tirelire. Rien de changé d'ailleurs, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et voilà, donc si on peut déjà apprendre déjà à un très jeune âge les bons comportements, ça c'est déjà une chose. Et bien sûr, pour les employés, comme vous dites, ça c'est... oui.
Mais en termes de productivité, par exemple, je pense plutôt en termes de productivité, oui, ou d'engagement dans son travail, comment est-ce qu'on peut utiliser...
Vous parlez de motivation, peut-être?
Oui, motivation. Ben, comment on peut utiliser les sciences comportementales pour mieux gérer ses employés?
Ben, il y a différents côtés qui sont plus ou moins reliés à l'économie comportementale. Il y a, par exemple, je ne sais pas si c'est l'Université Columbia à New York, il y a un centre de motivation. Donc là, les chercheurs, ils se basent là-dessus pour écrire des articles, faire des recherches pour justement avoir une meilleure appréciation pour comment motiver les gens.
C'est la gratification immédiate, je crois. Ça, c'est un des principes qu'on avait parlé. Mais...
Par exemple, il y a certaines choses qu'on n'a jamais vraiment envie de faire. Ça, c'est normal, c'est la vie. Dans mon cas, je ne vais peut-être pas dire ça sur les ondes, mais corriger les devoirs, ce n'est pas quelque chose que je suis toujours ravi. Ah oui, j'ai hâte. Et donc là, je mets toujours ça au lendemain. Ouais, hein. Mais bien sûr,
il faut le faire.
Comme bon professionnel... le travail, bien sûr, est fait, mais... et même que je lis ces articles, question de motivation, c'est toujours, par exemple, éviter de faire des excuses. Parce que quand on dit « Ah, j'ai pas envie de le faire aujourd'hui », ben, il n'y a pas... Demain, vous n'aurez pas envie non plus. Donc, si vous pouvez au moins, parlons de gratification, si vous pouvez au moins transformer cette activité en disant « Bon, si je le fais aujourd'hui, voilà, demain, je pourrais aller faire autre chose, je peux faire ce que j'ai envie. » Donc voilà, ça, ce serait la carotte, si j'ai fait ce travail. Et c'est ce que nos parents ont fait avant. Si je ne voulais pas terminer mon assiette, moi, pour moi, c'était « Qu'est-ce que j'ai comme... quel est le dessert ?» Encore une fois, il n'y a rien de changé. Qu'est-ce qu'on a comme dessert? Donc, quand je sais quel est le dessert, là, ça me motive. « Ah, il faut que je mange ces carottes. » C'est toujours ces carottes, je ne sais pas pourquoi. Le brocoli, peut-être, ce serait l'équivalent de nos jours. Donc, il faut toujours... Bon, voilà, on fait un effort. Ce n'est pas fantastique, mais ce n'est pas grave. On y arrivera. Et voilà le résultat. Je veux dire un autre exemple, on abordera ce sujet une autre fois, qui est dans le monde de jazz, par exemple. Il y avait chaque année le Lincoln Center Jazz Orchestra New York. Ils ont des gagnants des écoles secondaires.
Oui.
Enfin, pour participer à un concours de Duke Ellington. Donc, oui. Ça s'appelle Essentially Ellington. Ça se passe au mois de mai. Mm-hmm. Et il y a toujours bien sûr, ils jouent, mais il y a toujours des questions qu'ils posent aux musiciens. Et ça, moi, je trouve ça toujours intéressant parce que c'est toujours les jeunes questions qui essaient d'apprendre la musique, mais ils apprennent la vie. Là, il y avait un jeune homme qui posait la question à Wynton Marsalis, le grand chef. Il lui posait la question. Il disait, Est-ce qu'il faut que je m'exercice tous les jours? Wynton Marsalis dit, si tu veux être bon, il faut tous les jours, tu dois faire la pratique. Si tu veux pas être aussi bon, ne fais pas de pratique. C'est aussi simple que ça. Et donc, Et donc, quand moi je vois un très bon musicien, ça me donne un peu plus d'encouragement. Je dis, il faut que j'y aille parce que sinon on n'y arrive jamais. Et on est toujours autocritique, et c'est ça, pour moi, qui me motive à faire différentes choses.
Mm-hmm. Non, c'est intéressant, et j'imagine qu'il y a quand même beaucoup, justement, vous parliez du marketing, il y a quand même beaucoup de campagnes publicitaires qui sont faites sur la base des connaissances du comportement humain, et qu'est-ce qui provoque une décision ou un achat la décision d'acheter un produit, ça, les publicitaires sont très forts là-dedans.
Très forts. Et en plus, et ça, c'est un autre domaine peut-être, mais dans la neurobiologie, enfin, je ne sais pas exactement tous les domaines qui se recouvrent, mais là, ils sont capables d'analyser notre comportement, la réponse au niveau du cerveau à justement des affiches publicitaires, à des campagnes, etc. Donc, ça, c'est vraiment devenu une science pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Je n'ai pas pu vérifier, voir si c'est vrai, mais imaginez que vous voyez une de ces bouteilles d'une boisson brune, je ne sais pas si on peut dire le nom sur nos ondes.
Populaire, mais c'est
très, très, très populaire. Ouais. Et que vous voyez le nombre, les gouttelettes sur la bouteille. C'est vraiment une science. Il y a quelqu'un qui a dû voir combien de gouttes sur cette bouteille peut transformer à combien d'achats. Ça, ils ont ces données, ça paraît bête, mais voilà, on est arrivé jusqu'à comme science. La couleur, s'il y a une musique à la télévision, quel genre de musique, etc. Mmh. etc. Mmh. Et on vit une époque où on essaie toujours d'éviter les publicités, etc. C'est pour ça qu'on va sur certains réseaux en ligne pour voir des films, pour éviter cela. Mais
ça nous rattrape un peu.
Ça nous rattrape.
Les médias sociaux sont là aussi maintenant.
Les compagnies, ils trouvent d'autres moyens pour mettre leurs produits en valeur. Si vous regardez la télévision, vous voyez toutes sortes de produits, des produits du café, etc. C'est pas par hasard. Je pense pas qu'ils boivent tellement de café que ça.
Le nombre de films maintenant où on voit les ordinateurs qui sont utilisés, tout. Il y a les voitures qui sont utilisées, les marques des voitures, des ordinateurs.
Tout à fait.
Tout est visible. Enfin, maintenant, il y a plus aucune. Je crois qu'il y a plus aucune pudeur par rapport à la pub qu'on peut faire dans un film ou une émission de télé.
Et donc, moi, j'espère que quand les gens ils apprennent de ces genres d'études, économie comportementale, neurobiologie, etc., qu'ils en tirent les conséquences et qu'ils seront un peu plus avertis de ceux qui les entourent. Et c'est ça mon souhait. C'est difficile, mais...
Qu'on soit moins manipulé ou manipulable parce qu'on a un peu plus d'informations là-dessus.
Voilà, et c'est ça qui sera notre atout. Vous savez, question de vacances, il y en a qui vont à la plage et ceci, mais moi, j'essaie de me retirer complètement d'Internet, de téléphone, tout. Au calme, soleil, livre, la nourriture, très important, le vin, très important, le fromage, très important, mais aucun lien. Et
aucune connexion.
Aucune connexion. Et le monde continue, c'est pas la fin du monde. On n'a pas besoin d'être
connecté à
tout moment, mais on est arrivé là. Et donc là, c'est comme pendule, tôt ou tard...
Oui, le pendulier va revenir. Voilà. On pourrait être bien à l'équilibre. Mais c'est intéressant parce que je crois qu'un des sujets de votre expertise que vous enseignez, c'est le data mining aussi.
Oui.
Parce que justement, peut-être que la plupart des gens ne se rendent pas compte que toutes les actions qu'ils prennent sur Internet, que ce soit visiter un site ou revisiter un autre site, ou appuyer sur le bouton j'aime sur Facebook ou autre, ou toute action qu'on prend sur les réseaux sociaux, finalement, c'est tracé, il y a une traçabilité de notre comportement, ce qui explique que parfois, sans doute, on voit une annonce qui surgit. Moi, maintenant, je reçois des annonces sur des vacances à Hawaï, parce que j'y suis allée une fois, et donc ils ont réussi à... Ou j'y suis allée deux fois, mais tous mes centres d'intérêt, je me rends compte, je reçois des annonces qui correspondent à mes centres d'intérêt dans ma vie, et je me dis, mais merde, j'aurais jamais donné cette information. Et en fait, c'est parce que il y a un data mining qui est intégré dans la façon dont on surfe sur Internet.
Il y a un profil qui fait que s'alimenter à chaque fois que vous naviguez un site ou un autre. C'est comme ça.
Mais ça, je pense, est-ce que ça ne pose pas des problèmes d'éthique, justement, en termes de protection de la vie privée, comme on en parlait au moment de cette discussion entre Apple et le FBI sur l'accès à des téléphones portables ayant appartenu à des terroristes. Mais de manière générale, la traçabilité de ce qu'on fait sur Internet, est-ce qu'il y a pas... Parce qu'on reçoit toujours ce soi-disant le agreement qu'il faut signer.
Oui,
qui a le temps de lire 10 000 pages écrites en tout petit, mais est-ce que c'est là où finalement on donne accès à nos informations en acceptant de signer ce genre de choses?
Absolument.
L'utilisation des logiciels,
oui, ça va ensemble. Et c'est comme ça que Facebook ou Facebook, comme on dit dans notre contexte, ils font un argent fou, rien qu'en publicité à travers Facebook. C'est comme ça, ça c'est la plus grande source de revenus, c'est à travers les publicités.
Qui sont personnalisées les profils des gens qui sont inscrits. Mais peut-être qu'une des choses qu'on peut conseiller justement aux gens qui nous écoutent, c'est de faire attention aux informations qu'ils mettent, c'est-à-dire de protéger. Je me souviens avoir lu quelque part... ne mentionnez pas quand vous partez en vacances.
Absolument.
Parce que même si vous connaissez les gens de votre réseau, vous ne connaissez pas toutes les ramifications de où, jusqu'où va votre réseau. Donc si vous dites « Ah, on part en vacances la semaine prochaine », ça peut tomber sous les mains de quelqu'un mal intentionné qui dit « Ok, c'est la semaine où on peut les cambrioler ».
Absolument.
Donc il faut vraiment faire attention aux informations qu'on met sur Internet. Et puis il faut aussi protéger... Aller voir dans les... C'est assez difficile souvent, même sur LinkedIn. C'est seulement maintenant que hier ou ce week-end, j'ai trouvé le cheminement pour protéger certaines informations privées. Je n'avais pas du tout conscience qu'on pouvait cocher telle ou telle case pour se protéger de ce que les gens voient et tout.
Et c'est toujours ça, c'est l'effort qu'on veut faire. Et puis toutes ces compagnies rendent toujours ça de plus en plus difficile. Si quelqu'un dit quelque chose, et bien voilà, vous avez l'option, mais ils ne vont pas...
Mais ils ne l'ont pas vu parce que c'est tellement difficile à trouver. Donc peut-être prendre conscience du fait que toutes les actions qu'on prend sur Internet, il y a une conséquence. Et une des conséquences, c'est que votre comportement est tracé et et que tout ça, c'est voué à vous faire acheter des produits ou des services ou en tout cas... influencer vos décisions.
Oui.
Et c'est là où c'est important de se renseigner, de se former, de ne pas rester...
C'est pas facile.
Non.
C'est pas facile. Parce que, regardez, avec les portables qu'on a tous les jours, imaginez quitter la maison sans votre téléphone, qui, d'ailleurs, est certainement relié, que si vous ne faites pas attention, vous savez, quelqu'un peut savoir exactement où vous êtes à tout moment.
Oui. Ouais.
Alors, on va comme ça.
Avec portable, on a abandonné l'idée d'être anonyme, finalement.
Oui. Quand je promène la chaîne, pas de téléphone avec moi, même pas de montre. Là, quand j'ai le temps, bien sûr, c'est pas en pleine semaine. Ah oui, on va prendre une petite randonnée. Mais moi, ça, j'aime bien. Sans téléphone, comme ça, il n'y a pas de problème.
C'est un vrai break.
C'est vraiment... On pense à plusieurs choses, oui.
Mais c'est intéressant parce que ça, vous parlez de neurobiologie, mais justement, j'ai participé récemment à une conférence sur l'évolution de la robotique, etc., l'évolution de l'éducation et tout, où il parlait de la notion de bientôt, ce sera banal d'avoir une petite chip, enfin comment on appelle ça, une puce intégrée dans notre corps quelque part pour remplir telle ou telle fonction, même la nanotechnologie qui va permettre de complètement modifier... nos capacités en termes de mémoire ou d'apprentissage et autres. Donc ça peut être bien dans un sens parce que pour toutes les maladies qui sont liées à, au vieillissement et donc à perte de mémoire et tout, ça, ça peut être un, une solution. Mais d'un autre côté, on, ça interroge, bien sûr.
Oui, bien sûr, il y a toujours des bons exemples pour la technologie, mais il y en a toujours... je vais donner un exemple. Il y en a qui, quand ils sont en voiture, ils aiment bien avoir leur GPS pour savoir où ils vont. Mais je trouve ça toujours bizarre si, par exemple, vous employez ça pour Toronto. Parce que moi, quand je me déplace, moi, j'aime bien savoir comment aller d'un point à l'autre.
Oui.
Et puis, je suis parti. Que ce soit en voiture ou en transport en commun, enfin, je sais où je dois aller. Il y a quelques années, quand j'étais en Union soviétique, enfin, c'était... Non, c'était en Russie, je dois dire. Pardonnez-moi. Imaginez, bon, là, j'avais pas... il n'y avait pas encore de beaux téléphones, etc. Je n'avais pas de carte avec moi. J'avais accès à un grand livre, je vous dis. Mais ça, c'était l'époque de l'Union soviétique. C'est pour ça que... C'est... Donc, j'avais le nom des rues, des anciens noms que je devais dire. Bon, quel est le nom de cette rue actuellement? Et c'est dans ma tête, trouver un parcours. Tout ça en russe. Ça, c'était pas facile, mais on le faisait. Je veux dire que là, maintenant, on est vraiment... feignant, faut le dire. Question, si on travaille pas, on fait plus travailler nos cerveaux, on arrive où? Et pour moi, c'est vraiment lamentable que les gens, ils sont vraiment accros à cette technologie pour tout faire, pour tout penser, pour tout gérer. Et c'est pas une bonne solution. Par contre, il y a énormément de solutions qui sont là pour justement, espérons prolonger la durée de la vie, la qualité de la vie. Mm-hmm. Là, bien sûr, qui peut être contre ça?
Mais c'est vrai qu'il faut, je pense qu'il faut à la fois savoir gérer l'accès aux nouvelles technologies, la façon dont on s'en sert, et puis savoir décrocher aussi, parce que ça crée tout un stress. Il y a le stress, par exemple, des gens qui n'ont pas. Donc là, ça crée une fracture, la fracture numérique. C'est comme si c'était une fracture économique aussi, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas telle ou telle technologie. D'un seul coup, on se sent faire partie des pauvres ou des démunis, alors que bon, est-ce qu'il faut absolument avoir le dernier modèle de téléphone portable que tout le monde a pour être in, quoi, ou pour être branché, ou pour être dans la vie, pour être simplement, pour être vivant? Non.
Ça, c'est le marketing à plein tube. Ah oui, ça, c'est terrible.
Et ça crée un tas de stress.
Absolument.
Stress de, enfin, en tout cas, au niveau consommatoire, je pense,
oui.
Qui fait que les gens s'endettent pour pouvoir acheter un téléphone qui coûte 600 ou 900 dollars, enfin bon... ou le dernier modèle de tel ou tel ordinateur. Et c'est vrai que, comme on est dans un milieu, l'Amérique du Nord, quand même, c'est un mode, une société où la consommation est très importante, très poussée. Ça cause des problèmes de crédit, de gens qui n'ont pas d'argent et qui dépensent, etc. Donc, des stress au niveau de la vie personnelle et tout. Donc, je pense qu'il... Et c'est vrai qu'on a l'impression que les consommateurs sont moins protégés ici, peut-être qu'en Europe, où en Europe, il y a quand même beaucoup d'associations qui protègent les gens, que ce soit au niveau des produits qu'ils peuvent acheter ou pas, ou même du crédit. Je crois qu'en Europe, c'est un peu plus strict au niveau des réglementations.
Mm-hmm.
Ici, c'est un peu... Bon, c'est la loi du marché, quoi.
Absolument. On s'endette de plus en plus.
Oui. Personne ne vous oblige à acheter. On peut toujours vous dire ça. Hein.
Oui.
Mais pour pouvoir résister à toute cette mine d'informations qui est sans cesse bombardée pour vous inciter à acheter, justement, il faut savoir résister. Donc, peut-être qu'il faut... La première chose à faire, c'est de se déconnecter.
Ça aide. Et aussi être au courant de nos propres comportements.
Mm-hmm.
Parce que quand vous parlez de résister, c'est vraiment comme un muscle. On peut résister, mais à un certain moment, c'est pas possible. Et ça, c'est Dan Ariely, le professeur de Duke, qui avait suggéré cette théorie ou cette hypothèse plutôt, mm-hmm. que c'est pas par hasard que ce n'est que c'est pendant la nuit que des choses se passent. Parce que c'est là où, après une journée, on a dû résister pour vraiment bien se comporter dans la vie quotidienne, que là, on a plutôt tendance à relâcher. Allez, on va aller prendre un verre, allez, un deuxième. même qu'on pense qu'on sait tout, on sait bien se gérer, etc. Que, oui, pas de problème, on peut. Mais c'est pas. Les statistiques, les données montrent que ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la nuit. Restez à la maison. Ne sortez pas. Gardez vos enfants, surtout. Mais oui, et c'est ça, parce que c'est vraiment l'impulsion, oui, c'est comme un muscle, et ce muscle, il ne peut pas résister à tout moment.
Mm-hmm. C'est comme, il faut une soupape des secours.
Mm-hmm. Ils avaient fait une expérience, vous pouvez aussi voir sur YouTube, avec les guimauves, les marshmallows. Ils montraient ça devant des enfants, ils disaient, bon voilà, j'en mets un devant toi, je te donne 20 minutes, enfin je ne sais plus exactement le terme de l'expérience, dans 20 minutes, t'en auras un en plus, mais il ne faut pas que tu manges le premier. Alors tu vois les gosses qui sont en train, ils en ont, c'est très difficile à résister.
Oui, bien sûr.
Et c'est ça, c'est une très bonne parallèle pour la vie de tous les jours, de toujours résister.
Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, parce qu'on a beau être adulte, on prend toujours des décisions aussi qui sont parfois pas complètement...
Ben oui, c'est pour ça, pendant les heures de travail, on doit être professionnel, poli, etc. Et on rentre, ah là, tout, c'est la relâche. Ah, celui-là, je peux plus le voir en peinture. Paf. Mais là, au moins, on est à la maison.
Oh, hein. Ouais.
Mais là, maintenant, il y a une nouvelle télévision, une nouvelle technologie qui peuvent théoriquement enregistrer, en fait. Ils peuvent écouter. Le smart TV, théoriquement la technologie existe. Donc encore une fois, il faut faire attention à quel genre de technologie vous employez, vous insérez dans votre vie de tous les jours.
Ouais, c'est vraiment c'est vrai, quand on commence à y penser, finalement, le moins on s'entoure d'objets technologiques, plus on est peut-être protégé finalement de cet envahissement de notre vie personnelle.
On avait une vie plus simple, mais par contre, encore une fois, c'est ça qui m'intéresse avec la technologie. Il y a tellement de possibilités. Imaginez par exemple les coûts. Enfin, il y a tellement d'exemples. Moi, je suis toujours heureux quand il y a toutes sortes de cours qu'on peut prendre en ligne pour s'instruire, pour question de formation, mais pour divertissement, c'est fantastique.
C'est vrai.
Et ça, on n'avait pas avant. Avant, on devait aller à la bibliothèque locale. À Toronto, ce n'est pas évident. Au moins, on a beaucoup plus de possibilités grâce à Internet qu'auparavant.
C'est vrai. Ben, écoutez, c'est le mot de la fin que vous venez de nous donner. Donc, c'est tout le temps qu'on a. Merci d'avoir été avec nous à nouveau pour ce sujet vraiment passionnant, inépuisable, je crois, vraiment.
Absolument.
Et puis... on recommande peut-être l'auteur que vous avez mentionné, qui est spécialiste de l'économie comportementale à Duke University.
Oui, c'est Dan Ariely, Ariely.
Et je crois qu'il a écrit un livre sur l'irrationnel prédictible.
Prévisiblement irrationnel.
Mais
il y a d'autres titres plutôt que je connais plutôt en anglais. The Honest Truth About Dishonesty, par exemple.
Oui.
Je crois que c'était son dernier. Mais ces livres sont écrits d'une façon très, très conversationnelle. Enfin, il est très, très rigolo.
C'est pas du jargon.
Pas du tout. Mm-hmm. Donc, il est vraiment là pour expliquer à un public intéressé les grandes conclusions de son domaine. Et je trouve ça génial. Donc ses livres, même sur YouTube, etc. Enfin, il y a plein de ressources. Il est très, très renommé dans son domaine et j'apprécie beaucoup.
Oui. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alain Landès.
Merci beaucoup.
À la prochaine.
Absolument. Au revoir.
Au revoir.